Wir respektieren die Entscheidung und die Kompetenzen der Europäischen Union. Wir sind aber überzeugt, dass wir über künftige Änderungen des europäischen Wettbewerbsrechts nachdenken und entscheiden müssen.
Bah voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Ainsi parle le ministre de l'économie allemand. Nous respectons la décision et la compétence de la Commission européenne, mais nous devons réfléchir et décider de futurs changements à apporter au droit européen de la concurrence. Bruxelles a dit non à la concentration Alstom-Siemens et Peter Altmaier, comme Bruno Le Maire, n'est pas content. L'info de la semaine, c'est que Berlin veut faire des propositions avec Paris. L'info, c'est que l'Allemagne a changé de regard sur la politique industrielle. Les Tesla, les Huawei, les fabricants de batteries électriques, tous les pourvoyeurs d'intelligence artificielle outre-Rhin, l'alerte est sonnée désormais face à ses concurrents. Trop Made in China 2025 et trop America First. Ils sont trop forts, trop rapides et surtout, ils ne portent pas les mêmes chaussures sur le terrain de jeu. Il y a des États qui subventionnent leurs géants, il y a des États qui continuent de fermer leurs marchés alors qu'ils veulent investir en Europe. Eh bien, Paris et Berlin ont décidé de muscler les règles. Chiche. Mais attention, pour le moment, la mission assignée à Bruxelles, c'est de protéger le consommateur. Qui est d'accord pour préserver d'abord les usines? C'est ça aussi le sujet. Il ne concerne pas que les industriels.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Samedi 9 février, c'est la Sainte-Apolline. Chers auditeurs, l'équipe se réjouit de vous retrouver avec le réalisateur Coy Nguyen, l'attaché de production Valentin Pérez et la technique Antoine Gomez qui nous accompagne. Bonjour à vous le binôme Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques.
Bonjour à tous.
Emmanuel Le Chypre, BFM Business, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors ce matin, format spécial pour le Mag'Éco. Nous recevons ensemble un économiste mondialement connu pour sa courbe. Elle s'appelle la courbe de l'éléphant. Bonjour Branko Milanovic.
Bonjour tous.
Votre livre Inégalité mondiale, ça s'appelle pas la courbe de l'éléphant, même s'il y a un éléphant sur la couverture. Inégalité mondiale, le destin des classes moyennes, les ultra-riches et l'égalité des chances vient enfin d'être traduit en français à la découverte. Et Emmanuel, vous saluez, vous l'avez dit avant l'émission, le travail de Titan, la nouveauté de ce livre.
Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'économistes qui peuvent se targuer d'apporter des contributions nouvelles et originales pour décrypter les grandes tendances de l'économie. Et là, il y a une contribution majeure avec un apport statistique absolument considérable qui a vraiment renouvelé la vision de la mondialisation.
Alors là, quand vous dites stats, on a l'impression que ce n'est pas lisible et au contraire, c'est très lisible. Et Christian?
Ah oui, non, tout à fait. Moi, je suis les travaux de Branko Milanovic depuis qu'il est à la Banque mondiale. Donc, les working papers un peu difficiles et puis les premiers livres. Et puis enfin, le grand livre aujourd'hui qui permet à tout le monde de comprendre que dans la dynamique du capitalisme aujourd'hui, il y a des inégalités, c'est tout à fait clair et merci à la découverte d'avoir fait ce travail.
Branko Milanovic, on aime bien, je sais pas, en France, mettre un peu des étiquettes. Si je vous demande où vous vous classez en tant qu'économiste, votre parcours, votre tiroir à vous, c'est lequel?
Mais je dirais vraiment, si on aime les étiquettes, alors il faudrait qu'on me classe comme de gauche. Mais je pense que les étiquettes deviennent de plus en plus un peu surannées, parce que vraiment le monde est en train de changer. Même la gauche et la droite, c'est plus clair. Comme en France, on le voit très bien, c'est plus clair qui est de gauche, qui est de droite. Mais disons que je suis de gauche, disons, paléologique ou l'ancienne gauche. Alors je suis gauche.
Ok, on prend ça alors. Rendez-vous dans une poignée de secondes. On va détailler, vous poser des questions sur ce livre essentiel. La deuxième partie de l'émission, elle sera consacrée à l'argent public. Notre argent, celui des Français, hein, celui des impôts et des cotisations. Est-il bien utilisé? La Cour des comptes vient de rendre son rapport annuel. Interview du premier président de la Cour, Didier Migaud. Ce sera vers 9h45. Et puis ma vie au boulot, Sandrine Foulon, vous avez évidemment lu le livre de Branko Milanovic, mais aussi les 1000 pages du rapport de la Cour des comptes.
Oui, et quand la Cour des comptes parle de la vie au boulot et de l'alcool sur le lieu de travail, c'est difficile de résister.
Alors, pas une goutte avant 10 heures.
Exactement.
Branko Milanovic, donc ce livre « Inégalité mondiale », enfin traduit en français, qui parle donc de la mondialisation et des inégalités sur la planète. Depuis 20 ans, il y a eu des voix pour dire que la mondialisation n'était pas qu'heureuse. Souvenez-vous, par exemple, en 2001, le Forum social mondial, c'était à Porto Alegre.
Aux antipodes de Davos, Porto Alegre, c'est le rendez-vous de tous les pauvres de la planète et des mouvements anti-mondialisation. Il y a eu le temps des manifestations, comme à Seattle. Voici maintenant venu le temps de la réflexion et de la coordination pour imposer une alternative au système économique actuel.
On estime qu'il faut que nous réfléchissions à des réponses à la globalisation libérale du monde, à la mondialisation libérale qui aujourd'hui accroît les inégalités, pose des problèmes pour l'environnement. Nous pensons qu'ici au sud, nous pouvons avoir des réponses alternatives et nous sommes là pour y réfléchir.
Au total, plus de 10 000 personnes participent au premier forum social mondial, représentant 122 pays pour 6 jours de débats et d'échanges d'expériences.
C'était un reportage sur France 3 en 2001. Branko Milanović, pour dénoncer la mondialisation malheureuse, est-ce que les citoyens, certains citoyens, n'ont pas été en avance sur les économistes ?
Oui, probable qu'ils étaient en avant parce que vraiment, ils voyaient des effets, ils ressentaient des effets eux-mêmes, quand les économistes ils sont un peu plus éloignés de ça. Mais aussi, il y avait, je pense, une certaine, reluctance. C'est-à-dire, on ne voulait pas.
Alors,
vraiment...
reluctance, c'est, on hésitait à y aller.
Réticence. Voilà. Il y avait une certaine réticence parmi les économistes, vraiment, d'économistes qui faisaient de la macroéconomie, microéconomie, etc., de s'engager dans les travaux des inégalités. Parce que vraiment, on avait l'impression, c'est-à-dire eux, ils avaient l'impression que ça doit être une mondialisation heureuse pour tout le monde. Pas seulement pour une poignée de gens, mais pour tout le monde. Alors, ce n'était pas le cas.
C'était l'idéologie, ça ?
C'était l'idéologie, oui.
Christian Chavagneux.
Non, vraiment, c'est vrai que les économistes sont passés à côté de la plaque. Il y avait quelques économistes, hein, Thomas Piketty, Jamie Galbraith aux États-Unis, Branko Milanović, qui sont des spécialistes mondiaux de ces sujets. Et là, on a un bouquin qui, vous l'avez dit, Alexandra, a un éléphant sur la couverture. Alors, pourquoi ? Parce que Branko Milanović, il est connu pour la courbe de l'éléphant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette courbe de l'éléphant ?
Oui, c'est la courbe de l'éléphant parce que vraiment, ça ressemble à quelques lignes près à un éléphant. Et ça ressemble à un éléphant parce que vraiment, il y a trois points très importants sur cette courbe. Le premier point, c'est au milieu de la courbe, qui est très élevé. Ça démontre, ce sont vraiment les Chinois, les Asiatiques.
Attends, Branko, est-ce qu'on peut juste expliquer ce que vous avez voulu faire ? Parce que je pense que les gens, ils savent pas ce que c'est.
Non,
L'idée, c'est que vous avez découpé la population mondiale en catégories sociales et pas au niveau de chaque pays, comme on le fait toujours. Et vous avez regardé concrètement la mondialisation, ça vous apporte combien de revenus supplémentaires?
Absolument, c'est exactement ce que je fais. Alors, quand vous faites un graphique comme ça, les Chinois sont au centre de ce graphique parce que vraiment, ils sont quelque part en centre de la distribution mondiale et ils ont eu vraiment une augmentation très forte de revenus. D'autre part, quand vous avez tout à la fin du graphique où vous avez vraiment le top 1%, alors vous avez
1% des plus riches.
De plus riches.
Alors, c'est la trompe de l'éléphant.
C'est la trompe de l'éléphant. Elle est très élevée. D'ailleurs, dans le travail de Piketty et des autres récemment qui étaient encore une espèce de mise à jour de ce graphique, la trompe est encore plus forte. Et dans le creux, entre ces deux points, c'est-à-dire la trompe qui est très élevée, entre les Chinois qui sont très élevés, vous avez une espèce d'un creux de l'éléphant. Et là se trouvent les classes moyennes occidentales qui n'ont pas vu beaucoup d'augmentation de revenus. Alors vraiment, ça, c'est la question clé. Vous vous trouvez en quelque sorte entre les deux parties du monde qui ont fait vraiment très bien et vous, qui, disons, la classe moyenne française, vous n'avez pas fait grand-chose.
C'est ça, on n'a pas perdu de revenus au niveau de la classe moyenne française et des classes occidentales, mais en fait, les autres ont tellement progressé,
absolument,
les riches comme les asiatiques, qu'on se retrouve pris en étau. Branko Milanović, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est produit, ça ? Comment on a laissé ça arriver ?
Mais vous, en quelque sorte, je voulais dire que vraiment, les classes moyennes sont écartelées, en quelque sorte. D'un côté, elles sont en concurrence avec les gens qui peuvent faire les mêmes travaux, le même travail, comme eux, tout en étant payés beaucoup moins que eux, c'est d'un côté. De votre côté gauche, disons les Chinois. Mais de votre côté droite, vous sont vos concitoyennes qui ont fait très bien et qui n'ont pas voulu vraiment répartir ou, disons, partager cet argent avec vous. Alors, dans ce sens, vraiment, vous êtes écartelés entre les deux. Et c'est arrivé parce que vraiment, la globalisation, la mondialisation, pour eux, n'était pas vraiment une mondialisation heureuse. Il faut l'admettre. Il ne faut pas imaginer qu'elle était, tandis qu'elle ne l'était pas.
Mais pourquoi les riches ont fait ces cessions? Pourquoi est-ce qu'on a vraiment 1%, voire 0,1% des gens qui arrivent à accaparer autant de richesses?
Mais je pense qu'ils ont accaparé autant de richesses parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui étaient en leur faveur. Il y avait vraiment les politiques économiques qui étaient en leur faveur. Mais ces politiques économiques étaient ancrées, à mon avis, dans la mondialisation qui existait. C'est-à-dire la politique économique par laquelle vous diminuez les impôts sur le capital était ancrée dans la globalisation qui vous permettait de prendre vos capitaux et de l'investir ailleurs. Si vous n'aviez pas le moyen de le faire, alors on pourrait vous imposer beaucoup plus qu'on l'a fait. Il y a beaucoup d'autres choses. Deuxième chose, le travail. Comme vous le savez, le travail est en quelque sorte, s'il n'est pas mobile physiquement, il est mobile dans un sens idéal, c'est-à-dire vous prenez vos entreprises, vos investissements, vous allez en Slovaquie ou vous allez en Birmanie, alors bien sûr, ce sont les Birmanes ou les Slovaques qui ont de l'argent, qui font de l'argent, c'est-à-dire qui reçoivent les salaires par les Français ou les Italiens. Alors il y a pas mal de choses qui vraiment allaient à l'encontre des classes moyennes occidentales.
Emmanuel Le Chiffre.
La dynamique, pour aller plus précisément dans cette dynamique des inégalités, ce qu'on voit en fait, c'est que les inégalités entre pays, elles se sont réduites avec la mondialisation. Donc ça, on peut se dire, c'est plutôt positif. Mais c'est vrai qu'au sein de chaque pays, ces inégalités, elles ont augmenté. Est-ce qu'on peut identifier une dynamique de fabrication de ces inégalités? Est-ce qu'il y a une mécanique des inégalités?
Mais je pense que les inégalités au sein des pays sont augmentées pour des raisons que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il y avait la technologie qui était vraiment en quelque sorte hostile aux classes moyennes parce que vraiment on les remplaçait par des automates, par des robots et des choses comme ça. On se souvient par exemple dans le passé quand vous allez prendre un avion, alors il y avait des gens qui s'occupaient de vous, ils s'occupaient de votre ticket, ils s'occupaient de votre bagage, etc. Maintenant, vous occupez vous-même ou c'est le computer qui s'occupe de ça? Alors, il y a les travaux de routine ont été vraiment perdus. Et il y a des autres pertes que je viens de nommer avant, c'est-à-dire la perte des travaux en faveur des étrangers. Et finalement, il y a la capacité des gens les plus riches aussi de changer de lieu de résidence. Alors, comme vous savez maintenant, on choisit sa juridiction en fonction des avantages fiscaux. Alors vraiment, il y avait de tout ça qui est intervenu et que je pense, au total, vraiment, n'était pas très, très, comment dirais-je, très, très bien pour les classes moyennes.
Branko Milanović, vous dites que les plus riches n'ont pas voulu partager. Alors moi, j'entends qu'il y a eu des politiques qui leur ont été favorables, mais ce que Christian appelle les riches qui veulent faire sécession, cette volonté, la richesse leur est donc pas arrivée par hasard, par chance.
Mais quand je dis qu'ils ne le voulaient pas, c'est pas une question de vouloir ou ne pas vouloir, mais je pense qu'ils proposaient et qu'ils ont été en état de vraiment enforcer des politiques qui vraiment marchent très bien pour eux. Alors, peut-être, dans un certain sens, ils croyaient à ce qu'on appelle en français, c'est ruissellement. Il pensait, OK, alors si moi je deviens riche, en quelque sorte, les autres deviendront riches à la fin de ça. Alors, c'est très, très commun. Vous avez des articles du 19e siècle en Angleterre. La même chose. On dit, oui, c'est très bien que le gars, il devient riche parce qu'il doit dépenser cet argent. Il doit avoir des gens qui, des serviteurs, des autres qui vont apporter la nourriture, troisième, je sais pas, les habits, etc.
Vraiment, ça se passe comme ça ou pas?
Mais ça se passe pas comme ça. Ça se passe dans le sens où vous avez quelques personnes qui font ça, mais vraiment, en quelque sorte, en ne partageant pas ou en ne voulant pas avoir une imposition plus forte, finalement, vous créez une différence entre les classes qui est énorme. Et d'ailleurs, ce qui est arrivé, on le voit, disons, relativement bien.
Oui, mais Branko Milanović, je comprends pas pourquoi c'est grave les inégalités dès l'instant où la pauvreté globalement diminue. Et est-ce que c'est pas ça le plus important finalement?
Ah, mais c'est plus important. Quand on parle des inégalités, on ne dit pas que vraiment il n'y a que les inégalités qui comptent. Bien sûr que la pauvreté est plus importante. Si vous me dites, est-ce que vraiment il est plus important qu'il y a moins de gens pauvres ou que les inégalités augmentent un peu, oui, je suis d'accord. Mais ce qui arrive, c'est que vraiment les inégalités actuellement dans les pays riches et même dans certains pays pauvres, vraiment comme Brésil par exemple, empêchent la croissance économique. Nous, on est contre, je pense, quand je dis nous, les gens qui s'occupent des inégalités, sont contre les inégalités parce qu'il y a un effet négatif des inégalités sur la croissance. Il faut vraiment souligner ça parce que les gens, très souvent, sous l'influence vraiment des économistes néfastes, ils pensent que les inégalités vraiment, ça vraiment aide, ça contribue à la croissance. Mais on le voit, ce n'est pas le cas. Vraiment, ça va contre la croissance.
Donc, par quel mécanisme ça va contre la croissance,
D'ailleurs, vous avez mentionné ça, c'est Christian qui l'a mentionné. Vraiment, il y a un partage, c'est-à-dire il y a un partage social, c'est-à-dire vous avez les classes riches qui sont en train de créer la politique économique, de se séparer des autres, de donner des chances à leurs propres enfants, etc. Et les autres, ils n'ont pas ces chances-là. Alors vraiment, il y a une énorme différence de chances qui signifie que des gens qui sont peut-être intelligents et qui travaillent bien n'ont pas l'opportunité de contribuer à rien du tout à la société.
Bah alors ça, c'était le constat, mais la fin de votre livre, c'est la suite. Et pour demain, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que nous, par exemple, classe moyenne, pays occidentaux, on va se faire manger par les Asiatiques, par exemple?
Voilà, c'est très difficile de dire qu'est-ce qui va arriver, mais je pense dans le pire cas, disons quand je deviens pessimiste, alors je vois la classe moyenne occidentale vraiment se polariser en deux parties, c'est-à-dire les gens qui font bien et qui sont très bien intégrés dans le cycle, dans la mondialisation et tout ça, et les autres vraiment qui sont pas intégrés de tout et dont les travaux ne peuvent pas être remplacés par les gens d'ailleurs, parce que leur présence physique est absolument nécessaire. Mais là, vous savez vraiment, c'est pas tellement une inégalité, c'est vraiment une polarisation dans ce cas.
Emmanuel Le Chypre.
Il y a un aspect que vous soulignez qui est paradoxal, c'est qu'effectivement cette notion d'égalité des chances, on la pense toujours au sein des pays, mais jamais entre les pays. Ouais. Or, il y a un rôle important. Et puis, il y a le rôle des migrations. Et vous dites paradoxalement, dans un monde où les capitaux circulent de plus en plus vite, où les marchandises circulent de plus en plus vite, la migration, elle augmente pas. Est-ce que les migrations, c'est pas aussi une réponse justement à ou une solution à cette réduction des inégalités?
Absolument. La migration vraiment serait une réponse, parce que vraiment, il répond aussi à la pauvreté, parce que dès qu'on passe d'un pays très pauvre dans un pays plus riche, bien sûr, on augmente les revenus, on n'est plus pauvre. Le problème, bien sûr, comme on le sait, vraiment, c'est le problème politique. Alors, je voudrais parler ici dans les détails, mais vraiment, il y a des propositions qui voudraient réconcilier en quelque sorte ce désir, cette nécessité de migration qui est très bonne pour l'inégalité mondiale et pour la pauvreté mondiale. Mais d'autre part, il y a la question politique, il y a la question de la, disons, faisabilité, de la possibilité des populations domestiques d'accepter un grand nombre de migrants.
Oui, on a le débat en France, hein, c'est le problème culturel. Comment vous... Donc là, il y a un problème. Vous dites, oui, ça pourrait aider les plus pauvres d'aller travailler dans les pays les plus riches, ça réduirait le problème des inégalités, mais c'est vrai que cette position, votre proposition, elle est très controversée.
Oui, elle est très controversée parce que c'est la proposition de la migration
circulatoire.
Circulatoire.
Qui circule ou
qui circule, qui circule. Bon, ce sont des gens qui migrent, c'est-à-dire qui immigrent, disons, en France, seulement s'il y a des postes de travail qui sont disponibles. Alors, ils viennent ici, dans ce cas, ils travailleraient ici et ils seraient obligés de retourner après 4 ou 5 ans. Alors, ce n'est pas populaire parce que c'est très discriminatoire. Ils ont les droits qui découlent des droits du travail, mais ils n'auraient pas des droits civiques que les Français ont. Par exemple, le droit
de vote. Ça, c'est votre proposition.
Ça, c'est la proposition. Plus ou moins, parce qu'il y a encore plus en. Mais on ne peut pas aller sur tous les détails, mais c'est l'idée vraiment, c'est une migration qui circule, c'est-à-dire
sélective.
On ne reste pas.
C'est un CDD migratoire.
C'est un CDD, mais tout à fait, c'est un contrat à durée déterminée, une migration à durée déterminée.
Mais sans concurrence, c'est-à-dire quand vous avez un poste de travail français, on ne peut pas vous payer moins qu'un français. Alors là, il n'y a pas de différence entre un étranger et un français. La différence commence dès que vous sortez de l'usine ou de la maison où vous travaillez. Alors là, vous n'avez pas les droits civique des Français.
Bon, et là, on n'a pas résolu le problème culturel. Mais Christian Chavagneux.
Avant d'aller un peu plus loin sur les solutions, la France, vous avez vu, on a ce mouvement des gilets jaunes. C'est un effet direct des inégalités que vous décrivez dans votre livre?
Non, je pense vraiment... Vous savez, on ne peut pas vraiment prouver que c'est direct. Alors, si on demande aux gilets jaunes, ils n'ont pas lu mon livre, probablement. Ils devraient le lire maintenant. Mais jusqu'à présent, ils ne l'ont pas lu. Alors, mais il y a une certaine correspondance, il y a cohérence entre les demandes, ou disons, je dirais plutôt, entre le malaise et dissatisfaction des gilets jaunes et des autres, et avec les données, avec les chiffres, d'ailleurs, Emmanuel en a parlé, des chiffres vraiment qui sont très durs, qui sont très, très... disons, on ne peut pas les changer, ces chiffres-là et le malaise, vraiment, les deux choses, vraiment, il y a une certaine cohérence entre les deux.
Moi, j'aimerais m'intéresser aux solutions à présent. Branko Milanović, en vous écoutant, on comprend que la solution, on ne peut pas trop compter, à votre avis, sur les philanthropes américains, j'ai l'impression, hein,
et qu'on peut...
Qu'est-ce que c'est?
Non. Mais non, écoutez, c'est rue de Cure, je dois le dire, c'est rue de Cure, parce qu'il y a deux choses là. Premièrement, on se prend le pouvoir de se dire, ok, je m'en fous de taxation, des impôts, etc. Je suis un individu extraordinaire, alors je décide qu'est-ce que la communauté doit avoir. Mais c'est absolument extraordinaire, parce que vraiment, avec cette logique-là, pourquoi est-ce qu'on aurait les taxes du tout? Il faut pas en avoir. Parce que si chaque décide, je connais mieux que le gouvernement, alors il n'y a plus de société, il n'y a plus rien. Et d'autre part, je pense, quand vous regardez, par exemple, Zuckerman, il dit, OK, je vais donner 90% de ma fortune.
Facebook.
On ne sait ni quand, ni comment, quelles sont les pratiques de comptabilité. On ne sait rien du tout. Vous savez, Turner disait à un certain moment qu'il allait donner des milliards de dollars aux Nations Unies. Est-ce que quelqu'un a regardé s'il a donné cet argent?
Allez, on suivra l'argent de Trump. Oui. Vous avez évoqué la taxation. Aux États-Unis, il y a un vrai débat maintenant sur la taxation des plus riches. Vous avez cette jeune députée démocrate, Alexandria Ocasio-Cortez, qui dit il faut placer le taux marginal le plus haut, c'est-à-dire le taux le plus haut d'imposition à 70%. Elizabeth Warren, sénatrice, qui dit il faut taxer la richesse ou mettre une sorte d'ISF aux États-Unis. Est-ce que c'est le bon débat, ça, pour répondre aux inégalités?
Je pense que c'était des débats excellents. Et je pense d'ailleurs surtout sur Alexandria Ocasio-Cortez. J'étais absolument impressionné quand elle vraiment, elle presque détruit le système de financement des élections. Quand elle pose des questions, elle dit, est-ce que je pourrais être totalement financé par les intérêts de gaz et de pétrole, etc. Elle dit, oui, vous pouvez être. Est-ce que je pourrais ensuite écrire la législation sur le gaz? Il vous dit, oui, vous pouvez le faire. Est-ce que je pourrais ensuite investir mon propre argent avant que la législation soit en force pour que je fasse de l'argent parce que les prix des actions vont augmenter? Ils disent oui, tout est possible. Alors vraiment, c'est très clair.
Et la fin de la vidéo, c'est est-ce que je peux être président des États-Unis et faire ça? Et la réponse est oui.
Oui,
aussi. Absolument, regarder cette vidéo, elle est extraordinaire.
Il faut la regarder, on peut la trouver sur Twitter. Branko Milanovic, merci d'avoir été avec nous pour ce livre Inégalité mondiale, le destin des classes moyennes, les ultra-riches et l'égalité des chances. Une préface de Thomas Piketty, c'est édité à La Découverte. Merci d'avoir été avec nous ce matin et merci à Christian Chavagneux et Emmanuel Lechypre. À venir dans la prochaine demi-heure, on a le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud. Là, on va zoomer sur la France, sur ses dépenses publiques. C'est aussi au cœur de notre grand débat, hein, comme les gilets jaunes, les classes moyennes. L'argent public, celui de nos impôts et de nos cotisations, est-il bien dépensé? Devons-nous faire des économies? Pouvons-nous faire des économies? Prenez par exemple la fonction publique. Masse salariale, 200 milliards d'euros. Pour économiser, le gouvernement nous dit qu'il veut supprimer 120 000 postes d'ici 2022 et par exemple en les aidant à passer du public vers le privé avec une agence de reconversion qui ressemblerait à celle créée pour les militaires. Comment fonctionne cette agence? On suit notre reporter Manuel Ruffez.
Pour vous situer, on est le long du château de Vincennes, notre étrange banlieue parisienne. On a rendez-vous à la mission de reconversion des officiers. Effectivement, je vois ce qui ressemble à une caserne, le fort neuf devant nous, avec un mur d'enceinte métallique, des barbelés au-dessus. Et c'est là qu'on a rendez-vous pour voir un peu cette mission de reconversion.
Je suis le colonel Pascal Bory et je suis le chef de la mission reconversion des officiers, au sein de laquelle vous avez l'antenne cadre supérieur qui s'occupe d'accompagner les cadres de haut niveau des armées en transition professionnelle.
Ils sont là, derrière ce mur.
Alors derrière ce mur, effectivement, on a 18 officiers supérieurs qui débutent leur parcours par une information réalisée par un de nos prestataires privés et il est en train de leur présenter un petit peu toutes les étapes que vont pouvoir constituer leur transition.
En fait, d'avoir travaillé pour le même groupe, c'est un peu ça, on ne sait plus comment se comporter à l'extérieur.
En fait, on ne sait plus se vendre. Et ce que j'aime bien, l'acronyme britannique et anglais qui dit « market yourself ». C'est ça qu'on leur apprend, en fait. Il ne suffit pas de savoir faire un CV, il faut savoir se vendre et expliquer qui on est et quelle valeur on va pouvoir apporter à l'entreprise.
Market yourself. C'est donc un prestataire privé qui explique aux officiers comment se vendre pour trouver leur prochain travail dans le privé. Voici l'idée qui inspire la future agence de reconversion pour les agents de l'État, une agence qui doit voir le jour avant la fin de l'année. Ça n'est qu'une piste de la réforme de la fonction publique. Il y a aussi des aides à la mobilité, le recours accru aux contractuels ou encore des indicateurs d'efficacité. Les détails devraient être présentés au syndicat la semaine prochaine et le projet de loi sera lui élu en Conseil des ministres fin mars, avec toujours cette question de fond pour les services publics. Peut-on vraiment faire mieux avec moins ? Pour l'instant, on retrouve Manuel Ruffez dans l'agence de reconversion des militaires.
Alors on va rentrer, on va frapper, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Allez-y, excusez-nous, hein, on vous laisse poursuivre et terminer jusqu'à la pause. Peut-être qu'on se verra pour certains à la pause.
Très bien. Alors là, on va aborder les réseaux. Vous avez là, hein, les annonces représentent environ 15 à 20% des jobs. Et vous avez le réseau qui représente ici environ, j'ai mis 15, 85, 80 à 85% des jobs. Ça veut dire que vous avez 8 à 9 chances sur 10 de trouver votre prochain job de CDI par le réseau. Donc nous, étant à l'extérieur, eh bien évidemment on va répondre aux annonces, mais évidemment, là, nous avons un job qui nous attend dans 8 à 9 cas sur 10, vous avez un job qui vous attend. Là, et qui n'est pas visible et dont il n'y aura pas forcément d'annonce.
Alors, je suis Daniel Korfmatt, je suis coach d'entreprise et de cadre supérieur.
Donc, c'est vous qu'on vient d'entendre, là, qui expliquait un peu comment on passe par les réseaux pour trouver un emploi.
Tout à fait, exactement. Ce sont des gens qui ont travaillé et qui ont développé de très belles expertises, mais tout ça dans un cadre hyper organisé, hiérarchisé. Aujourd'hui, il va falloir qu'ils sortent et qu'ils soient proactifs, c'est-à-dire se prendre en main pour aller vers l'autre, avec un projet plutôt bien fait, et puis je dois aller me confronter à l'autre, et c'est en allant voir l'autre que je réussirai.
Donc on a vu cet exemple de reconversion de militaires pour les former à aller travailler dans le privé, un changement de vie. On va les poser question au premier syndicat de fonctionnaires, la CGT. La CGT, c'est à deux pas d'ici, c'est à Montreuil, et on a rendez-vous avec le responsable de la fonction publique, Jean-Marc Canon.
Oui, allô ?
Oui, Jean-Marc Canon, c'est Manuel Ruffez de France Inter.
Vous êtes en bas, c'est ça ?
Je suis en bas, dans le hall.
D'accord, ça marche.
À tout de suite. C'est une bonne idée de former les fonctionnaires pour aller travailler dans le privé.
Je crois qu'il faut bien voir que cette mesure n'est pas une mesure ex nihilo qui serait de satisfaire quelques volontés individuelles d'aller dans le privé, voir si l'herbe est plus verte que dans la fosse. Qu'il s'agit d'une mesure qui accompagne des suppressions massives d'emplois que le gouvernement et le président de la République souhaitent mener avant la fin de sa mandature. Et donc pour la CGT, dans ce cadre-là, ce n'est pas une bonne idée, puisque ce qui est visé, encore une fois, c'est de supprimer des emplois pour un espèce de considération macroéconomique. Par ailleurs, des actions pour aller dans le privé ont déjà été menées depuis des années. Il existe déjà des primes pour inciter les fonctionnaires dans le privé. On a vu que sur la base du volontariat, ça concerne très très peu d'agents qui font ce choix, et quasiment uniquement des hauts fonctionnaires, parce que ce sont les seuls à avoir éventuellement des compétences reconnues par le secteur privé pour pouvoir y travailler. Donc on voit bien qu'on est dans un truc qui, excusez-moi de le dire, relève plus du pipotage que de la volonté véritablement de satisfaire les légitimes aspirations des agents de la fonction publique. Il y a plein d'endroits où déjà les suppressions d'emplois ont été intervenues. Je rappelle que Nicolas Sarkozy a supprimé près de 150 000 emplois déjà entre 2007 et 2012, qui n'ont jamais été rattrapés. Et donc il y a plein d'endroits où les agents de la fonction publique sont dans des difficultés de conditions de travail, parce qu'ils font avec moins de salariés, moins de moyens, les mêmes choses et parfois plus qu'ils ne devaient faire hier. L'exemple que tout le monde peut voir quand même, les hôpitaux publics. On n'est pas dans de l'anecdotique là, où on est dans un endroit où tout le monde peut constater qu'on a des problèmes invraisemblables et que les personnels de santé travaillent dans des conditions inacceptables, avec des risques pour les citoyens extrêmement importants, et où le gouvernement ne crée pourtant pas un seul emploi. Et donc, on a plein d'autres administrations, je pense aux inspections qui ont des rôles énormes, la DGCRF, la répression sur les fraudes, l'inspection vétérinaire, l'inspection du travail, qui ont des charges énormes et qui mettent là aussi en jeu des fois la vie des citoyens, etc., où on est réduit à l'os, véritablement, où il n'y a plus d'agents pour s'occuper de ce truc-là. On va encore supprimer des emplois, ça veut dire conditions de travail de nouveau détériorées pour les agents, et surtout, j'insiste, qualité du service public rendu amoindrie aussi. C'est ça qu'il faut voir, c'est que ces actes-là vont avoir des conséquences pour les citoyens qui, normalement, devraient jouir de services publics de qualité, capables de répondre aux besoins contemporains de la société qui sont énormes. Et là, le gouvernement prend le risque d'amoindrir ce service public.
Voilà, ça c'est l'avis du syndicaliste. Changement de point de vue maintenant, direction les bureaux de Fipeco à Courbevoie. Fipeco, c'est un site d'information sur les finances publiques et son président, c'est François Eckal, économiste, ancien magistrat de la Cour des comptes.
Quand on fait des comparaisons internationales, on voit qu'on est plutôt dans les pays où il y a le plus de fonctionnaires. Il y en a un petit peu plus dans les pays scandinaves. D'ailleurs, ce n'est pas les dépenses de masse salariale publique, la raison pour laquelle la France est la première de l'OCDE pour ses dépenses publiques, c'est plutôt les prestations sociales. Mais on est quand même dans le groupe de tête et on peut probablement avoir le même niveau de service public avec moins de fonctionnaires.
La masse salariale, ce que ça représente, vous l'avez en tête ?
La masse salariale des administrations publiques, ça représente à peu près un cinquième du total des dépenses publiques. Hein, c'est 1200 milliards, on est un peu sur un peu plus de 200 milliards. Donc c'est beaucoup, oui, bien sûr. Donc si on veut faire des économies sur la masse salariale, ça ne peut être que sur les effectifs. Supprimer 120 000 postes, ça veut dire 25 000 postes par an sur à peu près les fonctionnaires publics de l'État et locaux, il y en a un peu plus de 4 millions. Donc ça veut dire faire des gains de productivité. Si on veut maintenir la même qualité de service, ça veut dire faire des gains de productivité entre 0,5 et 1% par an. C'est pas extraordinaire. Dans le secteur privé, on fait des gains de productivité de cette nature quasiment tout le temps. Et grâce à des restructurations, les nouvelles technologies, etc. Donc je pense que c'est tout à fait possible, oui.
Et c'est souhaitable ou pas?
C'est souhaitable, oui, parce que ça permet quand même de réduire le total des dépenses publiques. Le fait qu'on soit les premiers de l'OCDE n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est qu'il faut les financer par des impôts et des cotisations sociales. Et donc là, ça pose un problème. Hein. Non seulement, apparemment, les Français disent qu'ils trouvent qu'ils payent trop d'impôts, mais en plus, objectivement, économiquement, si vous avez des prélèvements obligatoires plus élevés que vos voisins, ça finit à un moment ou un autre par se traduire par des problèmes de compétitivité de vos entreprises, des problèmes de dégradation de vos comptes extérieurs, des problèmes d'attractivité de votre territoire, aussi bien pour les entreprises que pour les ménages. Donc ça finit par poser des problèmes. Donc oui, on a raison de le faire.
Mais qui a raison? Comment le dire? On vient d'entendre deux opinions éclairées, argumentées. Peut-être faut-il là faire un pas de côté, aller chercher un regard extérieur.
Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes. Très difficile de répondre parce que les deux argumentations sont très solides pour pouvoir se faire une opinion, qui est une opinion, j'allais dire, de mon côté plutôt positive sur le fait qu'on peut réaliser cet effort. Je dois dire que je suis un inconditionnel de cette production de biens et services, la manière dont c'est fait en France. Je pense que la police, la santé, l'université, l'éducation est bourrée de talents de qualité, mais c'est quand même très mal organisé, c'est quand même très souvent de gaspillage ou de non-efficacité. Et je pense vraiment que l'intérêt de tous, y compris et surtout peut-être ceux qui fournissent ces biens et services, c'est d'avoir une organisation qui soit plus efficace et où ils soient plus responsables. Je crois vraiment que le problème de la fonction publique, c'est d'arriver à rendre les gens beaucoup plus responsables et c'est ça qu'il faut changer.
C'est ça, ce que vous nous dites, c'est que c'est plus une question d'organisation vraiment que de rabot d'effectifs.
Alors, il faut faire attention. Par exemple, dans le domaine de la santé, on a un système de santé qui est formidable. Tout le monde le reconnaît. Simplement, il est un peu lourd et vous voyez bien que la réorganisation doit s'accompagner de renforcement en termes de personnel à des endroits où il en manque. On parle toujours des urgences. Et en contrepartie, de diminution, là, on n'y a pas bien réussi. L'exemple des urgences est très caractéristique. Si on arrivait à faire travailler de manière plus soigneuse l'hôpital public, les cliniques et la médecine de ville, on sait qu'on sait résoudre le problème. Donc vous voyez, c'est vraiment un problème d'organisation. On va essayer de rendre le dispositif plus efficace. Et quand les choses sont plus efficaces, évidemment que ça coûtera moins cher.
Fonctionnaire, peut-on vraiment faire mieux avec moins? C'était le reportage de Manuel Ruffet.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et pour continuer la réflexion, le président de la Cour des comptes est l'invité du Mag Éco ce samedi. Bonjour Didier Migaud.
Bonjour.
Vous avez écouté avec beaucoup d'attention ce reportage et je vous ai vu un peu hocher la tête. Qu'en pensez-vous? Ces dépenses publiques, c'est pas tant une question d'effectifs, de nombre de fonctionnaires que d'organisation?
Oui, tout n'est pas une question de crédit ou tout n'est pas une question seulement d'effectifs. Ça peut être une question d'organisation, de fonctionnement, de répartition des effectifs sur l'ensemble du territoire. Donc, réduire seulement le sujet de la meilleure réponse possible aux besoins exprimés par nos concitoyens me paraît très, très, très réducteur, bon, au niveau de la réponse.
C'est un choix politique, finalement.
C'est un choix politique, mais donc, il n'appartient pas à la Cour, là, de trancher là-dessus. Mais ce que nous constatons, c'est un haut niveau de dépenses publiques, et une fois de plus, il ne m'appartient pas de porter une appréciation sur ce niveau de dépenses publiques, mais nous sommes parmi donc les pays qui dépensons le plus. En revanche, nous ne sommes pas toujours parmi les pays qui a l'action la plus publique, la plus efficace et la plus efficiente. Nous avons des marges d'efficacité et des marges d'efficience.
Alors, vous venez de rendre cette semaine le dernier rapport annuel de la Cour des comptes. C'est un rendez-vous démocratique qu'on attend. On attend les bons points et les mauvais points, les exemples de gaspillage. Mais cette année, votre premier message, c'est que les finances publiques de la France restent fragiles et à vous lire, Didier Migaud, c'est notamment à cause des mesures gilets jaunes.
Non, pas du tout. D'abord, il ne nous revient pas d'apporter une appréciation sur les mesures qui ont été prises. En revanche, il nous appartient de veiller à ce qu'elles soient bien chiffrées et à ce qu'elles soient ensuite contenues dans les textes qui sont présentés au Parlement. Ce que nous constatons, c'est que la situation de nos finances publiques ne s'améliore pas. Sur 2018, nous aurons vraisemblablement, en l'état actuel de nos informations communiquées par le gouvernement, un déficit de nos comptes publics qui sera semblable à celui de 2017. Donc pas d'amélioration de ce côté-là. Et sur 2019, nous constatons un certain nombre d'incertitudes, c'est-à-dire qu'après le vote de la loi de finances, il y a un certain nombre de mesures qui ont été adoptées par le Parlement, de l'ordre de 3,7 milliards, qui pour le moment ne sont pas financés en tant que tels. Le gouvernement
par exemple,
a dit...
quelles mesures ? 3,7 milliards. Moi, je pensais aux 11 milliards pour les gilets jaunes.
Vous avez les 11 milliards, mais vous avez ensuite un certain nombre de mesures complémentaires qui ont été adoptées. Le gouvernement a dit qu'il les compenserait, notamment par une taxe sur les GAFA, sur une réduction d'un certain nombre de mesures touchant les grandes entreprises sur l'impôt sur les sociétés, et puis des mesures supplémentaires d'économie sur le fonctionnement de l'État. Mais pour le moment, ces mesures ne sont ni documentées, ni encore concrétisées. Donc, du coup, une incertitude sur ces 3,7 milliards et la façon donc de les financer. Et puis, on sait que l'environnement économique s'est quelque peu dégradé. Vous avez les dernières estimations de la Commission européenne pour la France qui sont de l'ordre de 1,3. Vous avez vu que l'INSEE a révisé aussi à la baisse les hypothèses de croissance sur l'année 2018. Donc on voit qu'il y a un environnement économique tout autour de nous, point de vue mondial, au point de vue européen, qui s'est plutôt dégradé. Donc voilà, et ça peut avoir des conséquences, bien évidemment, sur la trajectoire de nos finances publiques.
C'est ce que vous dites. Vous dites que, je reviens quand même à ces mesures gilets jaunes, on devait avoir un déficit plutôt autour de 2,8%. Il atteindra au moins 3,2%. Peut-être même, sous-entendez-vous, plus ?
Oui, peut-être plus si le gouvernement ne concrétise pas un certain nombre d'engagements qu'il a pu prendre. Alors c'est vrai que sur l'année 2019, les choses se présentent un peu différemment parce que nous avons une opération temporaire qui va peser sur les comptes publics et la transformation du CICE en baisse de cotisation sociale qui représente de l'ordre de 0,9 points de PIB. Donc le 3,2 ou le 3,4, 3,5 ne sont pas exactement un 3,2 ou un 3,5. Mais on voit bien qu'au niveau du déficit structurel, bon, qui est aussi intéressant à prendre en considération, là, il n'y a pas d'amélioration.
Donc ça, c'est un signal d'alarme, Didier Migaud, de la Cour des comptes. En plein grand débat, il y a énormément d'attentes des Français. Est-ce que là, la Cour des comptes n'est pas en train de dire, à la fois à l'exécutif et aux Français, qu'il ne faudrait pas mettre plus d'argent public sur la table face aux attentes?
Non, mais il faut les financer et expliquer que effectivement, si on souhaite des dépenses supplémentaires, eh ben ça ne peut être financé que par l'emprunt ou bien par des impôts et taxes supplémentaires. Et on sait où peut mener une insuffisante maîtrise de son endettement.
C'est-à-dire ?
Donc il faut faire très attention parce que qui dit endettement, qui dit dette non maîtrisée, dit extrême sensibilité par rapport au taux d'intérêt. On sait que toutes ces dernières années, nous avons eu des taux d'intérêt très bas, mais que progressivement, ils vont remonter. Alors, je ne pense pas brutalement, mais avec des conséquences importantes, bien évidemment, sur le montant de la charge de la dette. Toutes ces dernières années, nous avons eu une augmentation très importante de la dette, sans conséquence sur la charge de la dette. Elle a même diminué parce qu'on avait des taux d'intérêt extrêmement bas. À partir du moment où les taux d'intérêt remontent, et on voit bien que dans le monde, on commence à connaître ce phénomène, même si une fois de plus cette remontée sera progressive, il y aura des marges de conséquences sur les marges de manœuvre d'un gouvernement par rapport à cela.
La dette, dites-vous, Didier Migaud, je vous ai déjà entendu le dire, elle résulte aussi de l'indifférence pendant longtemps des politiques.
Non, ce que je dis, c'est que pendant trop longtemps, il y a une relative indifférence des décideurs par rapport à l'absence de résultats ou par rapport à une action publique pas toujours efficace, pas toujours efficiente.
Alors justement,
nous appelons toujours les décideurs. Alors il y a des mouvements maintenant qui commencent à s'opérer. Il y a eu ce qu'on a appelé le printemps de l'évaluation, avec une volonté notamment des commissions des finances, de l'Assemblée nationale, du Sénat, de se saisir davantage des sujets d'exécution des lois de finances, d'évaluation des politiques publiques. Ça va tout à fait dans le bon sens. On voit qu'il y a des effets d'aubaine.
On va en parler. Didier Migaud, par exemple, on ouvre le rapport ensemble. L'exemple des urgences, et on en parlait il y a quelques minutes dans le reportage. La Cour des comptes, pour résoudre le problème des urgences à l'hôpital, elle dit bah, y a certains services petits d'urgence qu'il faudrait fermer la nuit, ce qui est pour l'instant interdit.
Non, on ne dit pas ça. Ça, c'est une interprétation. Nous disons qu'il y a des besoins et qu'il faut voir la meilleure façon de satisfaire ses besoins. Et justement, nous proposons un certain nombre de solutions alternatives pour que justement ce service public soit rendu également dans des territoires plus lointains et notamment dans les territoires ruraux. Ce que nous constatons sur les urgences, c'est qu'il y a 10 à 20% de passages aux urgences qui ne sont pas justifiées, qui devraient relever davantage de la médecine de ville. Donc il faut retravailler sur une meilleure articulation entre l'hôpital et la médecine de ville. Et là, vous ferez des économies d'organisation, de fonctionnement, et vous gagnerez en efficacité et en meilleure réponse à l'ensemble de celles et ceux qui, légitimement, doivent pouvoir passer aux urgences.
Alors, autre exemple d'argent public et de dépenses, Radio France, complètement au hasard. Radio France, les recommandations de la Cour des comptes, pour résumer, c'est que après des années de restrictions budgétaires, la Cour estime qu'il faudrait encore faire des économies sur Radio France.
Nous constatons des progrès. Nous l'avons dit, sur le plan de la gestion financière, mais des progrès qui sont partiels. Nous constatons d'ailleurs de bonnes audiences au niveau de Radio France, mais il y a encore une situation financière qui est fragile. Et à partir du moment où vous avez une situation financière fragile, il faut bien vous interroger sur les sources possibles d'économies pour justement conforter le service public et Radio France.
Mais il faut faire des économies parce qu'il y a des gaspillages ou parce que l'avenir, c'est qu'il y aura moins d'argent pour le service public de l'audiovisuel.
Mais vous savez, quand on dit nous sommes dans une période de rigueur, d'austérité, tout ça, et la dépense publique a été réduite, non, elle continue d'augmenter chaque année. Bon. Donc la dépense publique chaque année augmente. Bon, donc ça n'est pas obligatoirement une politique rigoureuse de restriction des crédits. Il faut pouvoir s'interroger sur la meilleure efficacité, la meilleure efficience de notre action publique et de la dépense publique. Pourquoi on s'interdirait d'y réfléchir ? Pourquoi la réponse serait toujours plus de moyens ? Non, il faut d'abord s'interroger pour savoir si les moyens qu'on a en ce moment, sont suffisamment bien utilisés.
Mais Didier Migaud, vous connaissez le reproche fréquemment adressé à la Cour, c'est que la Cour se préoccupe des chiffres, c'est sa mission, et elle ne se préoccupe ni de colère sociale, ni de qualité. Regardez, en Essonne, lundi dernier, Emmanuel Macron était interpellé sur les suppressions de contrats aidés, et sur le fait que c'était douloureux pour les associations. Deux jours plus tard, conférence de presse de la Cour des comptes, vous vous félicitez que la politique de suppression des contrats aidés, ce que vous appelez le recentrage de la politique, soit intervenu. Les chiffres disent tout de la santé d'un pays ?
Non, mais réduire la Cour des comptes et nos travaux à une approche comptable, bon, je veux bien, c'est pratique, mais c'est profondément injuste. Bon, et ça ne correspond pas à la réalité, puisque nous examinons l'ensemble, bien sûr, de la problématique d'un sujet. Mais est-ce qu'on a le droit de s'interroger dans notre pays sur l'efficacité de dispositifs ? Vous avez parlé des contrats aidés, ils peuvent être utiles dans un certain nombre de circonstances, mais globalement, on s'aperçoit que ce sont des dispositifs qui sont beaucoup moins performants que d'autres. Donc pourquoi faudrait-il systématiquement les maintenir ? Est-ce qu'on n'a pas le droit de s'interroger ? Mais sur les aides aux entreprises, il faut avoir le même raisonnement. Il y a des effets d'aubaine aussi. Niche fiscale, bien évidemment.
On est en plein débat. Quelles niches fiscales sont inefficaces, par exemple ?
Vous avez, par exemple, un certain nombre de niches fiscales dans le secteur de l'imposition des entreprises qui ont été créées, inventées, tout simplement parce que la France a un taux d'impôt sur les sociétés beaucoup plus élevé que dans beaucoup de pays du monde. Bon, donc on a inventé un certain nombre de niches fiscales. À partir du moment où vous réduisez le taux d'impôt sur les sociétés, il faut que vous revisitiez un certain nombre de niches fiscales.
Les allègements sur les bas salaires ou sur les salaires intermédiaires
plutôt. Après, ce sont des choix politiques. Ouais. Mais que nous puissions poser ces questions. Il ne doit pas y avoir de questions interdites, de questions taboues. Nous avons vraiment une préoccupation. C'est justement la bonne utilisation de l'argent public. Voilà. Et la meilleure action publique possible, la plus efficace, la plus efficiente.
Allez, la dernière question, Didier Migaud. Gérald Darmanin qui voudrait que chaque Français reçoive une facture fictive des services publics qu'il a utilisés. Vous l'avez eu passer, cette proposition ou cette envie? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée?
Il ne m'appartient pas de la commenter. Ça, c'est, je ne fais pas de politique, donc je ne commande pas un certain nombre de réflexions ou de propositions de la part des ministres. Ce que je dis, c'est que la Cour souhaite éclairer le débat public. Nous ne sommes pas des décideurs. Nous sommes là pour éclairer le citoyen, le décideur, pour qu'il puisse prendre les meilleures décisions possibles en toute connaissance de cause et qu'on puisse objectiver le débat.
Et est-ce que vous allez encore rester longtemps à cette place d'éclaireur du débat public? Didier Migaud, on dit que vous êtes sur le départ.
Vous avez des informations à ce sujet?
Je n'en aurai pas avant vous. Didier Migaud, le toujours président de la Cour des comptes, merci d'avoir été avec nous et bonne journée à vous.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous.
Ma vie au boulot et Sandrine Foulon, vous aussi, vous vous êtes plongée dans le dernier rapport de la Cour des comptes. Il arrive aux magistrats financiers de parler de vie au boulot et d'alcool qui coule à flot.
Oui, la Cour des comptes vient d'épingler la gestion laxiste du mobilier national. Cette vénérable institution de 350 agents s'occupe de l'ameublement et de l'entretien des palais de la République. Et les sages s'étonnent de la présence de quantités importantes d'alcool sur les lieux de travail, loin d'être réservées à la célébration d'événements exceptionnels. Selon les magistrats, cette situation est anormale. Elle renforce les risques d'accidents du travail lors de l'usage des machines, sans compter les propos ou les agissements inappropriés auxquels elle peut conduire. Alors, comment se fait-ce? Vous le savez bien, Alexandra,
oui.
On ne boit pas de coupe de champagne ni de shot de vodka au bureau. Le code du travail est clair comme de l'eau de roche. L'alcool est interdit au boulot, excepté le vin, la bière, le cidre et le poiré.
Ça c'est
fait
pas mal.
Oui, ça fait beaucoup de dérogations. Depuis 2016, la Cour des comptes préconise de faire comme les Italiens et d'interdire complètement l'alcool au travail. Mais nous faisons de la résistance. Le Conseil d'État a jugé qu'en dehors de toute situation de risque et de danger, le règlement intérieur ne pouvait pas formuler d'interdiction générale et absolue.
En clair, ça veut dire que les choses ne vont pas vraiment changer dans l'entreprise.
Déjà, il faudrait pouvoir lutter contre nos réflexes culturels. L'alcool est beaucoup mieux valorisé que le tabac. Il est plus facile d'interdire les cigarettes et le vapotage au travail que l'alcool. On passe vite pour un pisse-vinaigre. Pourtant, l'alcool n'est pas juste ce petit plaisir festif lors d'un pot de départ. Tout le monde est concerné, cadre, ouvrier, fonctionnaire. Plus le stress est élevé, plus les personnels sont en contact avec du public, plus les risques d'addiction sont grands. 12% des femmes cadres présentent une consommation à risque, alors qu'elles sont un peu plus de 8% chez les ouvrières. Et l'étude montre qu'on a jusqu'à 3 fois plus de probabilité de perdre son emploi quand on boit de manière excessive. Plus grave, tous les ans, 49 000 vies sont perdues à cause de l'alcool et les coûts sociaux induits par l'alcoolisme représentent 120 milliards d'euros. Pour l'entreprise, le Conseil économique, social et environnemental préconise de mieux former les élus du personnel à la prévention des risques. Ce n'est pas sûr que cela suffise.
Ma vie au boulot, Sandrine Foulon.